13h05, c'est la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Merci Antoine Mercier. Après les artistes et la politique, la question des chercheurs. Alors d'accord, la séquence est close. Cette alerte est derrière nous, a déclaré Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans une tribune au journal La Croix hier. Mais cette séquence a eu le mérite de soulever un lièvre. Après le cafouillage gouvernemental concernant d'éventuelles coupes budgétaires en matière de recherche, cafouillage dénoncé par cette prix Nobel et une médaille Fields dans une tribune en début de semaine, il nous a paru important, même si le secrétaire d'État a assuré aux chercheurs que les budgets seraient constants cette année, de consacrer une émission à la recherche française aujourd'hui, d'autant que dans un moyen terme, l'année 2017 se profile et que dans un court terme, les signataires de la tribune seront reçus à l'Élysée lundi. Comme vous, Serge Haroche. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la Grande Table. Physicien, prix Nobel en 2012, professeur honoraire au Collège de France, ancien administrateur du Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interroger autour de la table. Nous avons fait appel à Mathias Girel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Maître de conférence et directeur des études du département de philosophie à l'École normale supérieure et directeur du centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences. Vous travaillez sur le rapport entre science et société.
Oui, c'est ça.
Un mot pour vous, Serge Haroche, déjà, pour définitivement peut-être clore cette séquence, sur le symbole, ce que révèle pour vous cette histoire. Vous avez quand même utilisé des mots très forts dans la tribune que vous avez signée également, bien entendu. Vous avez parlé de suicide scientifique et industriel. Qu'est-ce que révèle pour vous ce qui vient de se passer cette semaine?
Ça révèle une très grande fragilité de la recherche en France, recherche fondamentale et recherche appliquée. Le fait que les moyens attribués à cette recherche se sont ont diminué depuis au moins une dizaine d'années, depuis la crise. Et la menace de voir ces crédits diminuer encore sous l'effet de ces annulations budgétaires nous a beaucoup inquiétés et nous a indignés parce qu'on pense que les organismes de recherche sont vraiment au bout de ce qu'ils peuvent faire, que diminuer davantage leur crédit va rendre leur action complètement inefficace. Il faut bien comprendre que la fraction la plus importante de l'argent que reçoit le CNRS est fait pour payer des salaires et que lorsqu'une fois que les salaires ont été soustraits, il ne reste que très peu d'argent pour mener et faire fonctionner le système de façon satisfaisante. Et au CEA, la situation est encore plus grave. Et ceci nous mettait en compétition extrêmement difficile avec des pays étrangers qui, eux, pense en particulier à l'Allemagne, qui, eux, ont augmenté leurs crédits. Donc, on comprend très bien qu'il y a des difficultés dans le pays, mais on pense que la recherche, on parlait tout à l'heure de culture, la culture fait partie de l'identité de la France, mais la recherche également, et la recherche est une forme de culture, en particulier la recherche fondamentale.
La ministre est restée à vos côtés, je pense qu'elle ne vous démentira pas.
Serge Haroche, un petit point d'actualité, puisque le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, précisément Thierry Mandon, affirmait il y a peu de temps que les efforts demandés en 2016 à la recherche sont des mesures techniques qui ne vont pas toucher les programmes en cours dans les laboratoires. Est-ce que la position du gouvernement a un peu évolué depuis la signature de votre texte?
Je pense qu'elle a évolué et je pense qu'un des aspects encourageants de cette situation cette semaine, c'est que précisément depuis lundi, on a vu que la recherche est revenue au devant de la scène. J'ai été particulièrement encouragé par le fait aussi que les commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale ont de façon quasi unanime demandé que ces mesures soient, qu'on revienne sur ces mesures. Et donc c'est un bel exemple d'unanimisme politique. Je crois que c'est pratiquement le seul domaine où on voit de la gauche à la droite et dans la gauche tous les courants de la gauche être conscient de cela, et je pense que le gouvernement s'en est rendu compte. Je pense que ça traduit aussi, et on parlait tout à l'heure du contraste entre ce que doit être la culture et de tous les aspects techniques qui viennent l'encombrer. C'est la même chose ici, et je regrette qu'au sein des ministères, il y ait trop peu de fonctionnaires, de responsables qui soient au fait de ce qu'est la science et des besoins à moyen et à long terme de la science. C'est également un signe, je pense, qu'il faudrait que des choses changent et, à ce niveau, qu'on mette plus de gens qui ont une culture scientifique Et je pense qu'il se serait rendu compte au départ que ça allait provoquer l'indignation des chercheurs.
C'est une méconnaissance sur le fonctionnement même de la recherche.
Oui, je pense que la recherche fonctionne sur le moyen et le long terme, alors que le politique a tendance à voir surtout les problèmes à court terme. Et je pense que c'est la même chose pour la culture en général. Il y a un défaut d'adaptation des nécessités de la recherche et de la culture par rapport à la vision à court terme du politique.
Oui, non, je vais juste citer la petite phrase de Thierry Mandon précisément en disant « Les restrictions ne sont qu'optiquement maintenues ». Je trouvais que c'était une bonne définition, oui. Surtout pour un physicien.
Oui, je pense que c'est difficile de rentrer dans ces détails, ça va devenir très technique. Mais tout ce que je peux dire...
Non, mais je veux dire, vous confirmez que les choses sont moins graves que ce qui était précédemment.
C'est certainement moins grave que ce qui était précédemment, mais toucher au si j'ai bien compris, c'est touché au fonds de trésorerie de ces organismes, parce que la trésorerie est par définition toujours positive, et donc que si on enlève un peu d'argent à la trésorerie, ça ne va pas se voir tout de suite, surtout si on promet, si on s'engage moralement à le rajouter si on en a besoin. Mais c'est un peu comme si dans votre compte en banque, il doit être toujours positif, mais vous avez besoin d'argent pour pouvoir retirer de l'argent sur votre carte bleue ou sur vos impôts, on vous disait, bon, mais vous avez un solde positif, donc on va vous en enlever la moitié. Mais si vous passez dans le rouge, on vous le rendra. Donc je pense que c'est...
En l'occurrence, c'est un quart. Hein, la coupe de 250 millions correspondait à un quart du budget général du ministère, qui est de 23 milliards par an. Donc c'était quand même considérable.
Oui. Non, mais je pense que les choses sont maintenant plus positives et on est moins inquiet sur le court terme. Mais je pense que ce serait très intéressant de profiter de tout cela pour reparler en général de la recherche, des besoins de la recherche en France et du lien entre la recherche et la culture, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois, et la société n'en est pas vraiment consciente.
Voilà, c'est bien pour ça que nous faisons cette émission aujourd'hui. Mathias Sirel.
Oui, je pense que l'ensemble de la communauté de recherche était très sensible à l'appel qui a été lancé en début de semaine, sur fond d'une grande inquiétude pour la pérennité des programmes de recherche. Et effectivement, c'est peut-être pas le lieu de rentrer dans les détails, mais les fonds de roulement des universités, des grands établissements, c'est pas du tout anecdotique. C'est ce qui permet de faire face à des dépenses imprévues, d'amortir des investissements de grands équipements. Donc c'est pas du tout anecdotique par rapport à des programmes de recherche. Ce que la communauté des chercheurs a du mal à voir aussi, c'est la cohérence de cette politique, puisque d'un côté on annonce, ou en tout cas on a envisagé un certain temps des réductions importantes quand même des budgets de recherche, alors que d'un autre côté, donc le secrétaire d'État, je l'ai entendu donc sur LCI, les Indés, faire état de son opposition à ces coupes et annoncer qu'il allait demander 1 milliard supplémentaire l'an prochain. Donc on est dans une perspective de demander plus de fonds pour la recherche, et on est dans le troisième volet des projets d'investissement d'avenir, où là il est question effectivement de 10 milliards qui vont être répartis donc en faveur de la recherche, de l'innovation. Et donc moi je voulais demander à Serge Haroche quelle cohérence il voyait dans ces injonctions ou ces demandes qui sont adressées à la recherche.
Bon, il y a effectivement une contradiction entre l'intention du gouvernement qui a été manifestée à plusieurs reprises au cours de ce printemps de voir augmenter certains moyens, en particulier les crédits sur ce qu'on appelle les crédits ANR, c'est-à-dire l'argent qui est distribué aux chercheurs sur contrat pour leur permettre de mener des recherches, et ce qui s'est passé cette semaine. Mais je voudrais voir ce qui s'est passé cette semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un incident lié à ce besoin de trouver de l'argent rapidement pour des raisons comptables et à cette méconnaissance de la part de certains fonctionnaires du budget, de la façon dont fonctionne la recherche. Donc il faut dépasser ça. Mmh. J'espère effectivement que le gouvernement est conscient du fait qu'il faut faire quelque chose pour la recherche si on veut éviter qu'elle décroche par rapport aux autres pays, et surtout éviter de décourager les chercheurs et de décourager les jeunes scientifiques qui voudraient s'orienter vers la recherche. Donc l'augmentation éventuelle des crédits de l'ANR, la possibilité de faire des recrutements nouveaux me paraissent essentiels, et j'espère qu'on pourra discuter de cela avec le président lorsqu'on va le voir en début de semaine prochaine.
Antoine.
Oui, court terme, long terme, disiez-vous, mais précisément pour la recherche, c'est non seulement important au niveau financier, mais aussi au niveau de la possibilité de chercher sans forcément être obligé de trouver ou d'avoir un débouché. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans une tension très forte, indépendamment des problèmes financiers, sur la nature même de la recherche, de son utilité en tant que telle ?
Oui, bien sûr, c'est ça. Le gros problème, c'est le fait que les constantes de temps de la recherche et les constantes de temps de la politique et de la société ne sont pas du tout les mêmes. Les grandes découvertes...
Mais ça, c'est pas nouveau, ça,
oui,
c'est pas, ça a toujours été
c'est
comme
pas
ça.
C'est pas nouveau, mais en période économique favorable, ça n'a pas d'effet désastreux. Lorsque on cherche de l'argent de tous les côtés, lorsque la situation économique est mauvaise, eh bien, les politiques ont tendance à faire passer au second plan la recherche à long terme, parce que ce qui est important pour eux, c'est d'avoir des résultats à court terme. Or, la recherche, les constantes de temps de la recherche, c'est au minimum la dizaine d'années avant que les résultats d'une découverte fondamentale conduisent à des applications pratiques. Il se passe un temps très long et on peut donner des tas d'exemples.
Oui, on peut donner des tas d'exemples, bien entendu, Serge Haroche, de la même façon qu'on disait avec la ministre de la Culture tout à l'heure, enfin qu'elle disait que la culture était ce qui rassemblait. Oui. Ce qui me frappe dans cette histoire, moi, c'est le fait qu'on soit sans cesse obligé de rappeler pourquoi on a besoin de recherche, pourquoi la recherche est importante dans un pays. Vous parlez de risque de décrochage, de menace de décrochage de la France. Vous comparez, et vous l'avez fait dans votre tribune, l'implication des dépenses de recherche et développement de la France par rapport à ses voisins, à commencer par l'Allemagne, qui a augmenté de 75% ses dépenses en 10 ans. Mais on pourrait citer la Chine, on pourrait citer les États-Unis, bien d'autres encore. D'où ma question, Serge Haroche, pourquoi a-t-on besoin de recherche dans une société comme la nôtre, en dehors de toute question de corporatisme, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs se disent, voilà, les chercheurs, ils pensent que à eux, à leurs moyens, à leur salaire, et nous aussi, on se serre la ceinture. Bien sûr, mais c'est pas ça, ça va au-delà. Bien et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre.
Bien sûr, mais il y a deux réponses à votre question. La première, qui est la réponse, entre guillemets, utilitaire, ça consiste à dire qu'il n'y a pas d'application et d'innovation sans recherche et sans recherche fondamentale. Il n'y aurait jamais eu le laser, l'Internet, les ordinateurs sans les grandes découvertes de la physique quantique il y a un siècle. Donc c'est l'aspect utilitaire. Mais pour revenir à la discussion précédente sur la culture, je crois qu'il y a un aspect encore plus fondamental. La recherche, c'est un besoin d'expression de la curiosité, c'est un besoin de savoir et de connaissance qui est inné chez l'homme. Et donc même s'il n'y avait pas d'application, même les recherches qui n'ont pas d'application directe, sont essentiels pour faire réfléchir, pour faire rêver. Il y a un certain nombre d'exemples. Pourquoi est-ce que l'astrophysique et l'astronomie fascinent les gens? Ça ne va pas nous rapporter quelque chose en termes d'application ou d'innovation, le fait de découvrir l'existence d'exoplanètes. C'est quelque chose qui est purement là pour nourrir l'imagination, pour nourrir le rêve, et c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie de l'identité. Et ça fait partie de l'identité d'un pays comme la France.
Et ce qui est vrai pour la physique, l'astrophysique, l'astronomie, l'est aussi pour les mathématiques, et l'est aussi pour toutes les sciences humaines, bien entendu.
Oui, alors
ne les oublions pas, Magasia.
Je pense qu'il y a aussi une recherche fondamentale en sciences humaines, et dont parfois l'utilité éventuelle peut se révéler bien plus tard. Je pense à des recherches, par exemple, sur environnementales, et donc par exemple sur la toxicité du plomb. Donc des gens mènent leur enquête de manière indépendante, et récemment, donc un tribunal en Californie a statué une réparation $1 milliard en faveur de l'État de Californie sur le témoignage d'historiens. Et donc c'est vrai qu'à l'origine, on n'aurait pas pu prévoir ce débouché. Il y a des recherches en archéologie, par exemple, qui mènent à des conclusions tout à fait intéressantes, par exemple sur la manière dont une population peut gérer l'eau, les ressources naturelles. Je pense à des recherches qui se passent en Égypte, notamment. Et il y a aussi de la recherche dont l'utilité est tout à fait immédiate. Je pense actuellement à des programmes de recherche qui étaient antérieurs, mais qui existent sur la radicalisation, sur le terrorisme, qui n'ont pas été créés à la lumière des événements récents qu'on a subis, mais qui apportent un éclairage, il me semble, tout à fait fondamental. Et en ce sens-là, les sciences de la nature, comme les sciences humaines, moi je pense que non seulement elles font partie de la culture, mais c'est un bien commun, c'est une propriété commune, et je pense que c'est aussi pour ça, vous avez eu raison de souligner, que la réaction des chercheurs n'est pas corporatiste. C'est-à-dire quand on voit les conditions d'entrée dans la carrière de nos jeunes collègues, des gens qui arrivent par exemple forts d'une excellente thèse, de publication dans les meilleures revues et qui sont très contents de réussir le concours d'entrée du CNRS et donc d'être à environ 1800, 1900 euros. Je pense qu'ils croient vraiment très très fort à la valeur de la science de notre pays et au bien fondé de cette dernière. Et c'est aussi, j'y pensais en écoutant Serge Haroche, si vous me permettez, comment faire pour leur donner envie de rester. parce que c'est quand même l'enjeu, et quelles conditions leur donner pour qu'ils puissent, à un moment très fort de leur productivité, de leur créativité, nous apporter les richesses dont ils sont porteurs.
Serge Haroche.
Oui, il faut leur donner d'abord des moyens décents de vivre. Et donc, vous avez donné l'ordre de grandeur des salaires à l'entrée au CNRS. C'est effectivement tout à fait insuffisant et on profite en quelque sorte de l'enthousiasme et la naïveté des jeunes qui acceptent pour ce genre de salaire d'avoir fait des études très longues et qui se retrouvent ensuite face à des difficultés. Et ces difficultés personnelles dans leur vie vont forcément se refléter dans leur travail puisque tout cela est lié. Donc il faut évidemment augmenter les salaires au départ, il faut permettre à ces jeunes d'accéder à des postes de chercheurs, donc augmenter le nombre de postes à l'entrée, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une génération d'un gap, d'avoir un trou dans les générations de chercheurs. Et également, il faut leur donner au départ les moyens de travailler. Je pense en particulier à la recherche expérimentale en physique, mais pas seulement, en biologie aussi. Les expériences deviennent de plus en plus sophistiquées. Elles demandent de l'argent au départ. Dans des pays concurrents que je visite souvent, qu'il s'agisse des États-Unis, d'Israël, du Japon, de la Chine, les jeunes chercheurs, on leur donne les moyens de démarrer leur recherche. Et ça nous ramène au débat précédent. Le CNRS n'a plus les moyens de fournir ce qu'on appelle ses crédits récurrents. Il donne, dans le meilleur des cas, un espace de laboratoire, mais le chercheur va devoir immédiatement chercher des contrats. Or, les contrats se font sur des projets à court terme. Le chercheur qui commence, il va avoir l'ambition de démarrer un sujet nouveau qui peut être risqué et il ne va pas forcément trouver de l'argent immédiat sur un contrat finalisé. Et donc si on veut permettre aux jeunes chercheurs de démarrer avec ambition, il faut au départ leur mettre le pied à l'étrier en leur donnant l'argent de démarrage, ce qu'on appelle dans l'Union anglo-saxon les start-up money, ça n'a rien à voir avec les sociétés start-up, mais le starting grant pour démarrer. Et cela manque en France.
Vous dites en France, mais vous parliez des États-Unis, vous parliez de la Chine, d'Israël. Oui. En Europe, est-ce que la situation est comparable? On voit bien qu'il y a des restrictions budgétaires partout, oui. Qu'il y a toujours le temps court du politique, oui. Et qu'on veut toujours de la rentabilité. Est-ce que la France est-elle le seul pays où
c'est pas le seul pays. Non, il y a des pays où c'est pire. En Italie, la situation était catastrophique. La science italienne était sinistrée. D'ailleurs, la France en profite, puisque les jeunes chercheurs italiens, le premier pays où ils cherchent à aller après, c'est de venir en France. Et le CNRS a accueilli beaucoup de chercheurs de grande qualité venant d'Italie. Mais la situation est meilleure en Allemagne, où il y a davantage d'argent dans le système. Elle est meilleure dans des tout petits pays comme la Suisse ou la Hollande, qui consacrent davantage d'argent à la recherche par habitant. Et donc il y a ce problème. Il y a beaucoup de jeunes scientifiques français qui partent en Suisse, à Lausanne, à Zurich, etc. Et donc je pense que c'est pas mauvais intrinsèquement pour la recherche, qui est quelque chose d'international, mais si la France veut se maintenir en tête des activités de recherche dans un certain nombre de domaines où elle est extrêmement forte actuellement, il faut absolument faire un effort.
Oui, parce que c'est rentable, oui. Au fond, la recherche pour un euro dépensé, on en a 3,5 ou 5 si on doit rester dans les chiffres et dans la nécessaire économie. Il n'y a pas de nation prospère sans une recherche scientifique de qualité. Exactement. Mais Serge Haroche, en dehors de la question des moyens, qui est donc, on l'a compris, une question fondamentale, il y a aussi la façon dont les chercheurs travaillent, ou ont des difficultés pour travailler, c'est-à-dire faire leur travail de recherche et d'enseignement, hein, parce que ça va de pair, on le rappelle toujours, parce que ça aussi c'est nécessaire de le redire. Mais on entend les chercheurs parler de complexification administrative. Là aussi on revient au débat tout à l'heure avec la ministre de la Culture, mais ils peuvent plus parce qu'ils sont sans arrêt pris par des dossiers techniques. On leur demande toujours plus de papiers, de remplir tel et tel dossier. Alors, ça aussi, est-ce que c'est une demande que vous souhaiteriez formuler? Je crois que le secrétaire d'État en a parfaitement conscience, mais vous voyez le président de la République lundi.
Oui, on a déjà évoqué ce problème et ce problème est lié à ce dont on a déjà parlé. S'il n'y a pas d'argent récurrent, si on doit aller chercher l'argent sur des appels d'offres et des contrats, concrètement, ça veut dire que il faut sans arrêt remplir des papiers, dire je vais faire ceci, voilà ce à quoi je m'engage, et ensuite voilà ce que j'ai fait, comparer. C'est l'esprit du contrat par rapport à la confiance. La recherche fonctionne bien lorsqu'il y a de la confiance dans les deux sens. faire signer des contrats aux gens, c'est leur faire d'abord leur faire perdre un temps fou aux chercheurs, comme vous l'avez indiqué, parce qu'il faut satisfaire à une bureaucratie de plus en plus lourde. Et c'est en même temps antinomique avec l'esprit de la recherche, parce que le contrat, c'est l'opposé de la confiance. Le contrat, c'est attention, on vous donne de l'argent, mais il faut que ça produise. Et ça va également à l'encontre de cette dimension purement culturelle de la recherche qui a une valeur en soi, même si elle ne va pas produire quelque chose qui va être brevetable, qui va produire des emplois, etc. Donc on est sans arrêt, on se voit sans arrêt dans l'obligation de justifier notre activité sur le court terme. Alors pour un chercheur confirmé, c'est encore acceptable, mais pour un jeune chercheur qui a été formé uniquement pour la science, on lui demande d'être une espèce d'entrepreneur de sa propre petite entreprise, et il n'est pas fait pour cela. Il n'y connaît rien à la trésorerie, il connaît rien aux arcanes budgétaires.
Et c'est pas un tort, ça ?
Qu'il n'y connaisse rien ?
Oui.
Ben moi, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait essayer de leur épargner cela et de les laisser chercher, de les laisser s'adonner à leur passion pour la recherche dans la plus grande partie de leur temps.
Mathias Girel.
Oui, je pense que effectivement tout le monde ressent ça. La stabilisation supposée des budgets de la recherche, qui était censée être vraiment sanctuarisée ces dernières années, elle s'est quand même faite au détriment de ce qu'on appelle pudiquement les fonctions support. C'était des gens extrêmement utiles à des communautés de recherche, des secrétaires, des rédacteurs. Et donc, de fait, aujourd'hui, un chercheur passe un nombre d'heures inconsidéré à répondre à des mails de toutes sortes, à rentrer très profondément dans l'organisation de la recherche. Et c'est sans doute contre-productif. Et je pensais, en écoutant Serge Haroche, qu'un élément aussi des carrières qui est rarement évalué, c'est la manière dont un chercheur peut se mettre à disposition du public pour faire partager sa recherche. Et je pense que là aussi, il y a un ressort extrêmement puissant, et je serais curieux d'avoir l'avis de Serge Haroche là-dessus, qui est que la science, les sciences, les savoirs, je mets ensemble les sciences de la nature et les sciences humaines, intéressent énormément un très large public. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mesurer ici à travers les émissions scientifiques. Et donc, on a quand même un trésor extraordinaire. C'est à chaque fois qu'on organise un festival des sciences, des événements...
Comme la nuit des idées à l'École normale supérieure dans quelques jours.
Voilà, mais il y a d'autres événements. On sent une énorme appétence du public pour ces choses-là. Et comment vous voyez ça ? Est-ce qu'à votre avis, c'est une force dont on peut tirer parti, Serge Haroche ?
Bien sûr, c'est très important. C'est très important de rendre conscient le public de l'importance de la recherche en général et de le faire rêver sur des grands problèmes scientifiques en laissant de côté tous les aspects techniques et bureaucratiques dont on a parlé, bien entendu. Et moi, j'essaie de le faire le plus souvent possible en allant, par exemple, dans des lycées, essayer de parler de physique moderne de façon qualitative, mais en essayant de le faire de la façon la plus imagée et la plus, permettant aux jeunes pour permettre aux jeunes de se rendre compte de l'importance de cette physique, de la beauté qu'elle représente, du fait que ça n'a pas commencé aujourd'hui, que la recherche, ça fait plusieurs siècles qu'elle fait évoluer la pensée humaine. Et faire partie de ce courant, c'est l'une des choses enthousiasmantes que l'on ressent lorsqu'on fait de la recherche.
Serge Haroche, vous allez donc rencontrer le président de la République lundi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise en sortant ? Enfin, plutôt quand vous serez sorti de son bureau, avec quelle annonce, quelle phrase aimeriez-vous repartir ?
D'abord qu'il nous confirme que l'épisode malheureux qu'on vient de vivre est complètement derrière nous, et donc qu'il n'y a pas d'impact sur la recherche de ces annulations de crédit. Et le plus simple pour éviter toute interprétation et toute discussion budgétaire technique compliquée, ce serait tout simplement que la partie du décret qui concerne la recherche scientifique soit tout simplement annulée. Je pense qu'il n'y a pas de mal à reconnaître qu'il y a eu une erreur et à revenir dessus. Au-delà de ça, j'espère qu'on aura une discussion constructive sur tous les points que nous avons évoqués aujourd'hui et sur la nécessité qu'il y a de remettre la recherche au centre des intérêts du pays et de faire qu'on comprenne et qu'on fasse comprendre aux gens, à la société, qu'elle fait partie du trésor de l'identité française, du trésor culturel au sens large du pays. Je pense que c'est vraiment ça qui est important.
C'est déjà beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Serge Haroche d'être venu en quelque sorte préparer avec le président de la République votre rencontre de lundi. Merci Mathias Girel. Merci. Rendez-vous donc le 3 juin à l'École Normale Supérieure à Paris pour votre Nuit des Idées. Réécoutez et podcast en ligne sur le site de franceculture.fr. Un merci à toute l'équipe de La Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg, avec Maïwenn Guizhou toute cette semaine. À la réalisation, c'était Hervé Marchon. Et à la technique aujourd'hui, Élise Leu. Bon week-end à tous.